Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, vous êtes bel et bien à l'écoute de Radio Vatican. Merci de nous rejoindre dans cette édition. En recevant en audience les membres du chemin néo-catéchuménal lundi dans la salle Paul VI, le pape les a exhortés à suivre l'invitation de Jésus-Christ à aller témoigner en prêchant l'Évangile. Les évêques centrafricains ont achevé dimanche leur assemblée plénière. Pour la conférence épiscopale centrafricaine, le pays reste confronté à de nombreux défis. Le sommet du G7 se poursuit en Allemagne en lien avec cette rencontre des puissances mondiales. Le symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, CHEAM, appelle le G7 à prendre en compte les problèmes qui prévalent dans les pays pauvres et en développement. Au moins 30 villageois ont été tués dans l'ouest du Cameroun dans une attaque menée durant le week-end par une ethnie rivale. Nous en saurons davantage dans l'actualité sociopolitique africaine qui nous conduira notamment au Soudan. Le pays a exprimé lundi son intention de rappeler son ambassadeur à Addis Abeba, accusant l'armée éthiopienne d'avoir exécuté 7 de ses soldats. Amis auditeurs, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de notre programme.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niémier.
François a reçu en audience lundi dans la salle Paul VI les membres du chemin néo-catéchuménal. 430 familles envoyées en mission dans les zones les plus pauvres et les plus sécularisées du monde. Dans son discours, le pape a exhorté les communautés néo-catéchuménales à suivre l'invitation de Jésus-Christ à aller témoigner en prêchant l'Évangile avec la force, a-t-il dit, qui vient de l'Esprit-Saint. Va, prêche, baptise. Mais nous savons qu'une fois que nous avons baptisé la communauté qui naît libre, c'est une nouvelle église et nous devons la laisser grandir, l'aider à grandir avec ses propres manières, sa propre culture. C'est l'histoire de l'évangélisation, a ajouté le Saint-Père. Publié le 16 juillet 2020, le document du Dicaster pour la doctrine de la foi visant à guider ceux qui doivent faire face à des cas d'abus commis sur un enfant par un membre du clergé a été mis à jour. Cette nouvelle version tient compte des derniers documents publiés par le Saint-Siège. Le travail de révision a pris en compte, entre autres, les diverses contributions des centres académiques et des études sur le sujet qui leur sont parvenues au cours des 2 années écoulées, ainsi que de l'échange constant avec les réalités ecclésiales engagées depuis longtemps dans ce domaine, dont les suggestions se sont révélées être une occasion précieuse pour clarifier certains points et améliorer le texte. Au niveau rédactionnel, on a conservé la même numérotation que dans la première version afin de faciliter l'accès aux divers thèmes pour les personnes déjà familiarisées avec le Vademecum. S'agissant là également d'un test ouvert à de futurs développements, le Dicaster est reconnaissant aux personnes qui voudront lui présenter des observations utiles. La Centrafrique est aujourd'hui confrontée à de sérieux défis sécuritaires, sociopolitiques et socio-économiques. C'est le constat fait par les évêques de ce pays dans le message final de leur assemblée plénière tenue à Bambari du 20 au 27 juin. Au cours de leurs travaux, les évêques centrafricains ont notamment échangé sur la marche synodale de leur diocèse ainsi que sur les différentes situations humanitaires et sécuritaires, éducatives et socio-économiques qui déterminent et rythment la vie de leurs fidèles et concitoyens. Stanislas Kambashi.
L'épiscopat centrafricain constate tout d'abord l'exacerbation des tensions diplomatiques et géopolitiques dans lesquelles est enlisé leur pays. Les évêques relèvent par ailleurs la déliquescence du système éducatif, les défis sécuritaires et d'unité et de paix auxquels est confrontée la population centrafricaine. Au niveau sociopolitique, les évêques décrivent un contexte complexe et difficile, miné par des groupes armés qui sévissent et contrôlent encore des zones entières du pays. Leur présence continue à paralyser la vie des populations et à entraver la libre circulation des biens et des personnes, ainsi que les fonctionnements des écoles et établissements publics. L'épiscopat centrafricain dit en outre craindre une crise alimentaire en raison de la destruction des champs et du vol des bœufs. Par ailleurs, la pénurie des carburants paralyse la vie socio-économique et provoque une flambée vertigineuse des prix des denrées alimentaires et des biens de première nécessité. Les évêques appellent le gouvernement à ne ménager aucun effort pour chercher et trouver des solutions afin de soulager les souffrances du peuple centrafricain. Dans son message, l'épiscopat centrafricain constate aussi avec satisfaction que le processus synodal a permis d'être plus sensible au mal-être profond des faibles, des petits et des marginalisés. Ils appellent ainsi à capitaliser les acquis de la marche synodale pour promouvoir des valeurs justes et appropriées pour l'Église et le pays.
Direction la République démocratique du Congo. Le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, sera dans les prochains jours à Kinshasa, la capitale congolaise, pour prier de concert avec le pape à Rome le 3 juillet prochain. C'est ce qu'a annoncé la conférence épiscopale du Congo, la CENCO, dans un communiqué. Jean-Baptiste Malengue.
Le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin célébrera une messe à Kinshasa le dimanche prochain 3 juillet en communion avec le Saint-Père François qui présidera l'Eucharistie au même moment dans la basilique Saint-Pierre avec la communauté congolaise de Rome. Le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Mgr Donatien Cholet, l'a communiqué le samedi 25 juin en expliquant que la messe sera célébrée le même jour pour la santé du Saint-Père dans chacun des 48 diocèses du pays. Le porte-parole de la Conférence épiscopale a rappelé que la messe du 3 juillet à Rome a été décidée par le Saint-Père François lui-même qui a reporté pour des raisons de santé son voyage à Kinshasa et à Goma.
La CENCO rassure les Congolaises et les Congolais que cette visite du Premier ministre de l'État de la Cité du Vatican à Kinshasa ne substitue pas celle du pape François qui n'est que reportée et dont nous attendons la communication de nouvelles dates.
Pour la messe du dimanche 3 juillet, autour du secrétaire d'État, le cardinal Pietro Parolin, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, invite le peuple de Dieu dans l'église paroissiale Saint-Alphonse de Kinshasa Matete. Jean-Baptiste Malengue Kalunzu pour Radio Vatican.
Au Cameroun, en union avec Rome, le diocèse de Douala a organisé une célébration locale de la 10e rencontre mondiale des familles promue par le dicastère pour les laïcs, la famille et la vie sous le thème général de l'amour familial, vocation et sainteté. Au cours de cette célébration dimanche, couplée aux traditionnelles journées diocésaines de la famille, 86 couples totalisant au moins 45 années de vie commune dans le mariage sacramentel ont reçu des parchemins des mains de l'archevêque de Douala, Mgr Samuel Cléda. Paul Valéry Mendogo.
Toute la semaine, des expositions, des échanges, des messes et des moments de partage ont rassemblé en la cathédrale de Douala plusieurs fidèles autour des commissions et des différents mouvements à spiritualité conjugale et matrimoniale afin de célébrer et de promouvoir la famille chrétienne.
Nous sommes Aïcha Marianne et Irénée Kola, les coordonnateurs de la pastorale familiale dans l'archidiocèse de Douala. Alors, au niveau des différentes paroisses du diocèse, ont été organisés des enseignements autour d'Amoris Laetitia, autour de la grande thématique de l'amour familial. Nous avons eu 86 couples. Et parmi ces couples, nous avons eu un couple qui a célébré les 67 ans de vie commune.
L'éducation à l'amour au sein des familles, le rôle de la femme dans ce sens et la sanctification à travers les épreuves de la vie familiale surmontées avec amour, à l'exemple de Sainte Monique, telles sont les grandes questions qui ont fait l'objet de ces échanges à la salle des banquets de la cathédrale de Douala. Jusqu'au dimanche 26 juin 2022, les activités se sont poursuivies non seulement à Douala, mais aussi dans les autres diocèses du Cameroun pour célébrer la fidélité aux liens matrimoniaux et les valeurs familiales. Paul Valéry Mondogo, DDA pour Radio Vatican.
Alors que la rencontre du G7 se poursuit en Allemagne, le symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, CHEAM, a dans un plaidoyer appelé les 7 grandes puissances financières et politiques du monde à prendre en compte les problèmes qui prévalent dans les pays pauvres et en développement. Les précisions du père Jean-Germain Rajoelison, secrétaire général adjoint du CHEAM et directeur de la commission Justice, Paix et Développement.
Il s'agit en fait d'une sensibilisation de ces grandes puissances financières et politiques pour prendre la mesure des problèmes qui prévalent dans les pays pauvres et dans les pays en développement. Il s'agit d'un plaidoyer pour qu'il y ait une justice sociale dans le monde et pour que les pays pauvres ne soient pas oubliés et qu'ils ne soient pas tout simplement une occasion pour certaines organisations de faire des actes de charité, mais il y a un devoir de solidarité. Donc, la déclaration s'adresse à ces grandes puissances parce que en Afrique maintenant, les populations souffrent de la sécheresse, de la famine, aussi des conséquences des guerres, des intestines, des guerres qui existent dans le monde entier, et puis des injustices sociales.
Concrètement, que demande le symposium des conférences épiscopales d'Afrique de Madagascar au G7?
Il y a l'allègement des dettes et l'annulation pour les pays qui sont insolvables. La deuxième chose, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les droits des tirages spéciaux qui a été effectué par le FMI. Et donc, il y a une répartition de cet argent-là, disons, aux pays pauvres, aux pays en voie de développement.
Les 650 milliards de dollars.
Nous plaidons pour qu'il y ait une juste répartition de ces droits de tirage spéciaux pour les pays et surtout pour les pays en développement. Et puis, il y a aussi le problème de changement climatique. Lors de la réunion à Glasgow, on a évoqué la contribution des pays pollueurs, etc., et puis les pays développés, pour qu'ils puissent soutenir les efforts des pays pauvres. Mais et il s'est rien passé depuis, que ce n'était que du discours, mais sans qu'il y ait une concrétisation de ces vœux pieux. Et donc, on aimerait que les pays développés prennent en considération toutes ces réalités. Et enfin, il y a une urgence maintenant, la guerre en Ukraine, parce que le blocus pratiqué par la Russie entraîne des conséquences importantes sur la question alimentaire en Afrique. Et donc, il y a une urgence à laquelle il faut apporter des réponses.
Père Jean-Germain Rajoelison, secrétaire général adjoint du CHEAM et directeur de la Commission Justice, Paix et Développement.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Plus de 30 villageois, dont des femmes et des enfants, ont été tués dans l'ouest du Cameroun dans une attaque menée durant le week-end par une ethnie rivale, ont annoncé lundi l'église presbytérienne, une ONG locale et une source militaire. Le Soudan a dit lundi son intention de rappeler son ambassadeur à Addis Abeba, accusant l'armée éthiopienne d'avoir exécuté 7 de ses soldats et un civil fait prisonnier, promettant de riposter à cet acte, dans un acte qui contrevient à toutes les conventions de la guerre et au droit international. L'armée éthiopienne a exécuté 7 soldats soudanais et un citoyen avait accusé dans la nuit de dimanche à lundi l'armée soudanaise. Ces hommes avaient été enlevés le 22 juin en territoire soudanais, puis emmenés en Éthiopie, a accusé lundi le ministère soudanais des Affaires étrangères. Le Soudan a en outre indiqué qu'il déposerait plainte auprès du Conseil de sécurité de l'ONU et des organisations régionales. Selon un responsable militaire soudanais, les soldats avaient été capturés dans une région frontalière proche d'Al-Fashaga, une zone de terre fertile, dans l'état de Gedaref, dans l'est soudanais, objet d'un conflit frontalier entre le Soudan et l'Éthiopie. Concernant l'Éthiopie, l'armée de ce pays a présenté des drones de combat lors d'une cérémonie de remise de diplômes à des pilotes militaires selon des images diffusées par la télévision d'État. Selon plusieurs analystes, le recours à des drones de combat par les forces gouvernementales éthiopiennes, parfois avec des conséquences meurtrières, avait contribué à renverser le cours de la guerre contre le Front de libération du peuple du Tigré dans le nord de l'Éthiopie. Le procès de 84 personnes, dont deux députés d'opposition, Détiéfal et Mam Diarafam, qui auraient bravé une interdiction de manifester dans un climat de tension préélectorale, a débuté lundi au tribunal de Dakar au Sénégal. Le 17 juin, une manifestation à l'appel de l'opposition avait été interdite par les autorités qui invoquaient des risques de troubles. « Je rejette tous ces faits dont on m'accuse », a clamé Détiéfal. Je n'ai pas participé à la manifestation parce qu'elle n'a pas existé. Nous sommes au Sénégal. Le droit de manifester est inscrit dans la Constitution, a renchéri le parlementaire. J'allais voir Barthélémy Diaz, maire de Dakar et figure de l'opposition, avec mes deux enfants et je me suis retrouvée dans un fourgon de la gendarmerie. Maintenant, il faut me dire si au Sénégal, les lois interdisent d'aller voir des amis, des parents ou des connaissances, a plaidé de son côté Mame Diara Fam. Les deux députés ont affirmé avoir été enlevés sans aucun respect de leurs fonctions. Le bar informel en Afrique du Sud où 21 jeunes ont trouvé la mort au cours du week-end dans des circonstances mystérieuses était passé lundi au peigne fin par la police à la recherche d'indices des survivants décrivant des corps étendus et une odeur suspecte. À l'aube dimanche, les 7 corps de 17 jeunes, dont certains âgés de seulement 13 ans, ont été retrouvés dans un chibine, bar de township d'une banlieue pauvre dans l'est London, dans le sud du pays. 4 sont décédés plus tard à l'hôpital. 13 garçons, 8 filles au total, aucune blessure apparente. Intoxication à l'alcool, empoisonnement, plusieurs pistes sont pour l'heure évoquées sur l'origine des décès. Des autopsies sont en cours, ont indiqué les autorités sud-africaines. Un séisme de magnitude 5,1 sur l'échelle de Richter s'est produit dimanche soir près d'Oran, principale ville de l'ouest de l'Algérie qui accueille depuis samedi les Jeux méditerranéens, a annoncé le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Poursuivons notre programme avec le magazine consacré à la santé. Christian Combé.
La santé, un problème pour tous, un défi pour les sociétés et l'Église en Afrique.
L'abus des drogues, en parler, c'est sauver des vies. La journée mondiale contre l'abus et le trafic illicite de drogue pour cette année a été célébrée sous le thème « Relever les défis de la drogue dans les crises sanitaires et humanitaires ». Le thème de cette journée, célébrée chaque année le 26 juin, a mis l'accent sur l'abus et le trafic de drogue comme une question de santé publique. C'est ce qui ressort du message du secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres. Cette année, la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue met en relief les conséquences des problèmes liés à la drogue sur les crises sanitaires et humanitaires, peut-on lire dans ce message. Les conflits, les catastrophes climatiques, les déplacements forcés et la misère offrent un terreau fertile à l'abus des drogues, a souligné M. Gutiérrez, la pandémie de COVID-19 ne faisant qu'aggraver une situation déjà difficile. Pour le secrétaire général de l'ONU, le trafiquant de drogue profite de la difficulté qu'ont les personnes vivant des situations d'urgence humanitaire de ne pas avoir accès aux soins et aux traitements dont elles ont besoin et qu'elles méritent de recevoir. Antonio Guterres invite à la mise en place des solutions politiques non discriminatoires axées sur les personnes, la santé et les droits humains et à l'intensification de la coopération internationale pour enrayer le trafic de drogue et obliger ceux qui profitent de la misère humaine à rendre des comptes. Considérer la question de la drogue comme un problème de santé publique, c'est aussi renforcer les traitements et les services de soutien fondés sur la science pour aider les usagers de drogue et les traiter comme des victimes qui méritent d'être soignées et non punies, discriminées ou stigmatisées, et renforcer notamment les traitements pour les personnes qui vivent avec des maladies infectieuses comme le VIH-Sida et l'hépatite, souligne le message du secrétaire général de l'ONU. Alors que le débat sur la décriminalisation et l'encadrement légal des drogues a été relancé dans plusieurs pays, il apparaît de plus en plus que les interventions publiques pour faire face à la problématique des drogues ne peuvent se limiter au niveau sécuritaire, mais doivent intégrer une perspective de santé publique et communautaire. Au niveau du continent africain, diverses actions ont été menées pour sensibiliser aux problèmes majeurs que représentent les drogues illicites pour la société. En République démocratique du Congo, le bureau pays de la Fédération mondiale contre la drogue a trouvé en cette journée l'occasion de continuer de plaider en vue de protéger le droit à la santé des plus vulnérables, notamment les enfants et les jeunes, les personnes qui consomment des drogues, celles qui souffrent de troubles liés à la consommation des drogues et celles qui ont besoin d'un accès à des médicaments contrôlés. En Côte d'Ivoire, l'Association pour la promotion de la santé de la femme, de la mère, de l'enfant et de la famille, APROSAM, a initié une campagne contre l'abus et le trafic de drogue à San Pedro en vue de promouvoir de meilleures politiques de drogue, mettant la priorité sur la santé publique et les droits humains. En Tunisie, l'association NES pour la combinaison combinée a lancé une campagne de plaidoyer sous le slogan « C'est le trafic qu'il faut combattre, non les consommatrices et consommateurs de drogue ».
Invité du jour.
Notre invité du jour est Paul Balenza, membre de la communauté famille chrétienne en République démocratique du Congo. Il a participé à la 10e rencontre mondiale des familles qui s'est achevée dimanche au Vatican. Il nous parle de ses impressions sur cette rencontre. Il commence par le témoignage que son couple a présenté lors du festival d'ouverture de cette rencontre. On l'écoute.
Notre témoignage a consisté sur le pardon. On était à un pas de divorce parce qu'on a fait pratiquement plus de 8 mois, 9 mois sans être ensemble, moi et madame. Nous avons vraiment subi cette histoire comme un choc, surtout les enfants. Ça les a bouleversés. Il y a eu beaucoup d'intermédiaires, des gens qui voulaient nous réunir encore une fois. Nos familles n'ont pas pu. Les amis aussi, certaines personnes aussi. Mais Dieu aidant, parce que le Seigneur n'a pas voulu ça, grâce à lui et à la communauté famille chrétienne, au couple senior, Monsieur Botol et sa femme, nous avons accepté de nous rencontrer, de nous parler des vérités, des dures vérités, et puis de trouver quand même intérêt d'entente. Et le Seigneur aidant, ma femme a accepté qu'on puisse se voir, qu'on puisse parler de tout et de rien. Et qu'on puisse mettre de côté la haine, la rancœur qui a élu domicile dans nos cœurs, et on a eu à se pardonner et à se dire des vérités et à promettre de ne plus refaire ce que nous avons eu à faire pour que nous puissions arriver jusqu'à ce stade-là.
Le thème de cette 10e rencontre mondiale des familles mettait en exergue la famille et la vocation à la sainteté. Qu'est-ce qui vous a particulièrement inspiré ce thème? Et puis, qu'est-ce que c'est un peu inspiré à toutes les familles chrétiennes?
Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce thème. Le thème m'a fait voir que la famille constitue une église domestique. Nous devons grandir, nous devons avoir une foi non calquée sur la vocation des prêtres, mais notre famille doit être une vocation à part entière. Donc la sanctification est aussi possible pour nous, dans nos familles, surtout pour nous, parce que nous vivons réellement au jour le jour des problèmes que les prêtres ne vivent pas dans les communautés, dans le couvent. Et nous sommes face à notre conjointe et face aussi aux enfants. Ça m'a beaucoup inspiré. Et de cette rencontre, j'ai aussi retenu un problème, que d'habitude je faisais pas attention à ça. J'ai vu qu'il y avait dans certains pays des communautés de divorcés, hein, qui aidaient les couples mariés à ne pas divorcer. Et ça m'a beaucoup plu. Donc, il y a eu des gens qui se sont divorcés, qui ont accepté de rester seuls dans la vie avec Christ, mais aidant les autres à ne pas devenir comme eux. Ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi aimé la résolution de prendre un peu beaucoup plus de temps dans la préparation de mariage. Pourquoi nos prêtres, les prêtres qui nous aident dans la vie spirituelle, consacrent 8, 10, 12, 15, 18 années de préparation pour être prêtre? Et nous, le mariage qui produit ces prêtres-là qui font des 18 ans, ne peut que durer 3 ans la préparation. Non. Moi, je pense que c'est une bonne chose. La préparation de mariage doit avoir un temps consistant pour que les gens puissent bien intérioriser, éviter les divorces, tout ça. Donc, le mariage doit être un lieu où on doit bannir les divorces, où le pardon doit régner, le dialogue doit régner, le temps consacré aux enfants doit aussi régner. J'ai beaucoup aimé. J'ai aussi aimé une résolution là, que les parents puissent apprendre l'internet, hein, parce que nous devons diriger nos enfants, nous les aider à bien discerner comment utiliser cet internet là. Or, il semble que ces enfants là connaissent l'internet plus que nous, donc les enfants doivent nous apprendre l'internet pour que nous, à notre tour, nous puissions discerner les biens et le mal dans cet internet là et les retransmettre encore aux enfants. C'est encore une bonne chose. J'ai aussi appris une chose, que nous devons donner trop de temps aux personnes du troisième âge. Il manque cette chaleur-là de famille, cette ambiance de famille. Bon, c'est vrai, les maisons de retraite résolvent le problème, mais pas totalement. Nous devons plus cohabiter, vivre avec nos vieux, nos vieilles, afin qu'ils puissent bénéficier de cette chaleur-là jusqu'à la fin de leur temps ici sur Terre.
Vous venez de la République démocratique du Congo. Après avoir participé à cette 10e rencontre mondiale des familles, quel message lancez-vous aux familles de la RD Congo en particulier et de l'Afrique en général? Qu'est-ce que vous apportez comme voix, comme message?
Nos familles doivent comprendre que chaque famille a ses problèmes. qui peuvent être différents des autres familles. Mais chaque famille aussi a les pistes et solutions pour résoudre ses problèmes. Et dans tout ça, il n'y a qu'un dénominateur commun qui est le Christ. Nous devons tous nous tourner vers Dieu, vers le Christ, qui lui apporte les solutions à différents problèmes que nous connaissons ici sur terre. Je leur dirais ça simplement, de mettre Jésus dans leur vie de couple, dans leur famille et dans leurs relations avec les autres familles.
Un mot de la fin de votre part, honorable.
Oui, je suis très content. Je souhaiterais, une fois rentré au pays, faire une restitution afin de faire comprendre ou de former ceux-là qui sont restés, ce que nous avons eu, la richesse que nous avons puisée dans cette rencontre mondiale de famille.
Paul Balenza, de la République démocratique du Congo, dans des propos recueillis par Stanislas Kambashi.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Amis auditeurs, c'est la fin de cette édition de notre programme qui vous a été présentée par Françoise Nyamia. À tous et à toutes, merci pour votre fidélité renouvelée à Radio Vatican.
Laisse-moi répondre la paix de mon Dieu. Laisse-moi répondre la paix.